Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Bourse, le club de la bourse.
On évoquait tout ça d'ailleurs aussi avec John Plassard dans USA Today, c'était à 15h30, le replay est à retrouver sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Le club, le potentiel des marchés tel que le voient nos experts, nos clubbeurs, ils remixent, ils mettent en musique les marchés chaque soir à partir de 17h. Louis Defesse, bonsoir Louis.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, directeur des gestions de Gay-Lussac Gestion et Christian Bitteau, professeur de finance à l'ESSEC. Christian Bitteau qui nous accompagnait aussi dans la précédente demi-heure. Ça va Christian, toujours là?
Bonsoir, avec
fidèle,
plaisir.
Fidèle à l'appel, au front, sur le pont, avec nous en fil rouge tout au long de l'après-midi. Merci à tous les deux donc de répondre à notre appel. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du calme des marchés? On est encore en hausse aujourd'hui à Wall Street, en Europe, tranquille hausse, on vient à nouveau caresser, tutoyer les records avec une volatilité décidément inexistante, extrêmement faible la volatilité, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Cette faible volatilité, alors qu'on est sur des quasi-records, est-ce que ça doit nous inquiéter, nous interpeller? Est-ce que le marché dort debout là, Louis?
C'est vrai que le marché est devenu très très peu volatile déjà depuis 2 ans. Ça rappelle un peu les années 2017. Pourtant, les banquiers centraux sont absents pas au même moment que ces années. C'est vrai qu'on aurait pu penser un peu plus de volatilité. Et c'est pas du tout le cas. Donc, pourtant, en plus, Jérôme Powell a confirmé ce qu'attendait le marché, à savoir une première baisse de taux au mois de juin est peut-être différente. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que la banquiers centraux fait tout ce qu'il faut pour plaire au marché. Donc, pour pas avoir de volatilité. C'est vrai que ça peut faire peur. Aujourd'hui, quand on voit les valorisations remonter à des niveaux et par rapport à des taux qui continuent de progresser aux États-Unis, c'est vrai que la prime de risque revient extrêmement basse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une énorme... Le marché est très, très, très complaisant. C'est pour ça qu'il y a quasiment pas de volatilité. Je crois que ça fait... Je sais pas combien de jours, plus de 200 jours, je crois, où il y a le marché S&P n'a pas fait plus de 2% à la hausse ou à la baisse. Donc, donc voilà, pour l'instant, c'est amplifié par les ETF. Bon, voilà, ça, on a fait un très bon premier trimestre. Les records sont faits pour être battus, donc souvent c'est bon signe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'est là pour pouvoir arrêter ça. C'est ça ce qui peut faire un peu peur. Souvent, c'est les signes noirs, on le sait toujours après, on les commande toujours après que devant. Mais c'est vrai que là, pour le moment, aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait mettre un frein à l'enthousiasme très très fort qu'il y a notamment aux États-Unis, poussé par l'intelligence artificielle, par beaucoup d'autres domaines. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, pour que quelque chose un peu éclate ou qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement calme. Les banquiers centraux disent ce que le marché veut entendre. Donc c'est vrai que ça peut être inquiétant, mais aujourd'hui, tout monte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était surtout les méga caps, les 7 magnifiques qui faisaient monter le marché. Mais maintenant, il y a tout le reste de la cote qui commence à arriver. Et donc, en gros, c'est plutôt un marché qui monte plutôt assez sainement. Donc, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de raison de pas rester investi. Mais néanmoins, en effet, quand tout le monde est content, tout le monde est très complaisant, attention. Oui. Mais après, ça ne sert à rien d'être trop non plus prudent pour rien.
Est-ce qu'il y a un sommeil dans le marché, un sommeil collectif? Vous êtes un spécialiste de la volatilité d'ailleurs, Christian. Donc ça
oui, elle
très
est
bien.
Très basse, mais
elle est très basse, c'est inquiétant.
Il y a de très bonnes raisons pour ça. J'écoutais votre journal à 17h. La seule mauvaise nouvelle à l'approche de Pâques, c'est l'envolée des pépites de cacao en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le prix du cacao à l'approche des chocolats de Pâques, parce que tout le reste, il n'y a que des bonnes nouvelles.
La géopolitique, c'est pourri, là, quand même.
Alors, effectivement, ça c'est la réserve
du risque.
Nous, là, bien sûr, et ça, c'est impossible à déterminer, ce sont les événements géopolitiques. Mais si on regarde l'économie, que l'on suit de très très près, tous les jours, il y a des petites nouvelles, mais qui sont toutes, je n'ai jamais vu ça, elles vont toutes dans le même sens et le bon sens. Je prends les chiffres d'aujourd'hui, vous l'avez cité, les commandes de biens durables aux États-Unis. Tiens, ça s'améliore un tout petit peu, mais pas trop, parce que trop, on dirait, ça y est, l'inflation revient, et JP Morgan aurait raison, ça serait la hausse des taux d'intérêt, parce que c'est leur principal risque, eux pensent qu'on est encore dans une boucle d'inflation. Mais là, il y a juste une petite amélioration. Et puis aussi, l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier aux États-Unis. Rappelez-vous, la grande peur en septembre-octobre l'année dernière, c'était un effondrement de l'immobilier américain. Or là, l'indice Case-Shiller qui reprend le prix de l'immobilier dans les 20 plus grandes villes américaines, sur un an glissant, il est en hausse de plus 6,6%. Positif, ça va, c'est très bien, c'est l'immobilier ne s'effondre plus. Et puis il y en a plein. Vendredi, c'était l'IFO allemand, tiens, l'Allemagne dont on a parlé, qui sort d'une récession, était à moins 0,3 au trimestre dernier. Bah l'Allemagne, son indice IFO remonte à 87,9, donc c'est positif. Les PMI composites en Europe, on est à 49,9, on se rapproche du niveau de 50, c'est on échappe à la récession. Et il est normal que les marchés soient bons lorsque les nouvelles s'inversent et vont plutôt vers le bon, mais pas trop bon. Alors ça, c'est parfait pour nous gestionnaires, on a le temps tranquillement de composer les portefeuilles, de rester investis, et on voit bien, le marché ne baisse pas. C'est-à-dire ceux qui disent, oh bah j'attends qu'on revienne à 7002 sur le CAC pour réinvestir, bah j'ai peur que justement soit un facteur de hausse, parce qu'ils ne le voient pas, il y a un moment où ils vont craquer, et on aura ensuite l'emballement. Je ne pense pas qu'on soit encore en phase d'emballement à la hausse du marché. Pour ceci, on attend que les banques centrales se décident.
On peut encore dire aujourd'hui que le marché monte dans le scepticisme. C'est Warren Buffett qui a coutume de dire que les marchés durablement haussiers montent dans le scepticisme. Est-ce qu'ils montent encore aujourd'hui dans le scepticisme, les marchés ?
Oui, j'ai l'impression que oui. Mais ce qui est positif, ils ne montent pas dans la folie, en tout cas. Je ne sens pas auprès des épargnants, des clients que nous suivons, des gens qui se précipitent en folie et qui achètent aveuglément. On parlera, je pense, des niveaux de valorisation. Dans quasiment tous les secteurs, même les méga caps qui ont tiré les indices, n'ont pas des taux de valorisation dans les valeurs technologiques qu'on avait comme par exemple en 2000 quand c'était la folie des valeurs technologiques. Les price earnings, les multiples ne sont pas excessifs. Voilà, pour les meilleurs, ils sont dans la moyenne et puis il y a 90% de la cote qui est en dessous de sa moyenne historique, où là, les gérants commencent à faire leur métier, leur travail et aller rechercher les autres pépites que le chocolat.
C'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu le marché monter notamment que sur le P du PE, donc sur le prix et pas du tout sur les earnings. Et là, comme dit Christian très justement, si on a touché peut-être un peu le point bas et qu'il y a une réaccélération de l'économie, pas trop non plus pour que ça fasse plaisir aux banquiers centraux, bah c'est plutôt une bonne nouvelle parce que peut-être on a touché enfin le point bas des bénéfices par action. Ça sera peut-être pour nous le T1, ça dépend aux États-Unis, peut-être le T4. Et s'il y a une réaccélération, comme on pense, qui est très chère chez nous, chez Gay-Lussac, c'est dire, notamment par la consommation, parce que vous avez retrouvé du pouvoir d'achat en réel. Ça fait déjà deux trimestres, quelques plusieurs mois, que le consommateur américain, européen, récupérait du pouvoir d'achat. Mais en tout cas, en Europe, vous savez très bien que vous n'avez pas reconsommé tout de suite. Au début, vous l'épargnez. Donc, clairement, il y a des réserves d'épargne très fortes, en tout cas en Europe, pour pouvoir arriver. Aux États-Unis, ça a déjà été fait, ce qui est expliqué à croissance. Et c'est pour ça que la croissance américaine a plutôt été révisée à la hausse. Rappelez-vous, en début d'année, tout le monde pensait qu'on allait être à 0,8 de croissance aux US en 2024. Mm-hmm. Le consensus est remonté à 2. Il y a des gens comme Goldman Sachs qui sont beaucoup plus bull, qui attendent entre 2,8 et 3, notamment drivés par la consommation. Donc voilà, donc c'est que le marché a re-rété fortement donc sur le PE. Je crois qu'on est passé de quasiment plus de 11 à 13 en Europe,
13,5. Ce qui reste très raisonnable, 13,5.
Ce qui reste très raisonnable. Et c'est vrai que...
Aux États-Unis, c'est plus tendu quand même. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que JP Morgan voit le S&P reculer de 1000 points, 20%, moins 20% d'ici la fin de l'année.
Alors, aux États-Unis, il y a deux choses. C'est que le S&P se paye à peu près 20, un peu plus de 20 fois l'année en cours, avec 30 fois pour les Magnifique 7. Et si on regarde le S&P Equal Weight, on est plutôt autour de 16 fois. Donc c'est vrai que si on retire un peu les 7 mégacaps, mais bon, qui font partie des indices, on n'est plus qu'à 16 fois. Donc 16 fois, ce n'est pas non plus catastrophique. C'est à peu près en ligne avec le reste du marché. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça peut continuer de monter parce que ces fameuses mégacaps, soit en Europe ou aux États-Unis, ont des croissances de bénéfices supérieures au reste des large caps américaines ou européennes. Donc c'est pour ça qu'il y a une décote de valorisation ou une surcote pour les mégacaps qui est complètement justifiée par la croissance de bénéfices. Qui est deux fois supérieur au reste du marché.
Mais le fait que les indices actions montent dans une forme de grande sérénité quand même, et que l'or parallèlement monte aussi, l'or, l'once d'or est sur des records, de 1176 $ encore aujourd'hui, est-ce que ça c'est un signe quand même qu'il y a dans le marché forme d'inquiétude malgré tout? Enfin, comment est-ce qu'on interprète cette hausse à la fois des actifs à risque et des actifs refuges comme l'or?
Alors, bon, l'or, il faut évoquer à ce moment-là le climat géopolitique qui est effectivement instable, incertain, le Moyen-Orient, l'Ukraine, maintenant des attentats. C'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faudrait, et c'est l'élément qu'on peut difficilement prédire, qui justifiera à ce moment-là une forte baisse des marchés. Bon, là, il faut la boule de cristal, on l'a pas, il faut le prendre en compte. Et donc, il y a des gens qui le prennent en compte, qui soit achètent des obligations d'État, les taux sont toujours très bas, soit de l'or, voire même du Bitcoin. Vous êtes un spécialiste.
Oh là là.
C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que normalement, le cours de l'or est totalement drivé par les taux réels. Et c'est vrai qu'il y a un peu une déconnexion entre les deux. Donc, en effet, comme dit Christian, c'est soit le risque géopolitique, ou sinon, peut-être d'autres banquiers centraux à cause des problèmes de devises qui veulent sortir peut-être du dollar, qui se mettent à acheter de l'or comme diversification des bons centraux. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments tactiques, mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui le cours de l'or est totalement plus drivé par les taux réels, qui était le cas auparavant.
Allez, on est à 20 minutes maintenant de la clôture, messieurs, vous restez avec nous, on entre dans la dernière ligne droite. On accélère vers la clôture, effectivement, vous l'entendez. Et notre CAC 40 s'oriente vers une hausse tout à l'heure à 17h35. Il gagne en ce moment le CAC 0,38%, proche de son record, donc 8182 points en ce moment, le CAC. Kering est en tête, pas tous les jours. Kering gagne 3%. On a le secteur bancaire aussi qui porte le CAC. Hein. Secteur bancaire très très bien orienté aujourd'hui. BNP Paribas gagne 2,6%. Les replis, Stellantis recule d'un peu plus de 1,9%. Puis Carrefour qui a racheté un certain nombre de ses actions avec une petite décote. Carrefour dans un cadre global de remaniement de son capital. Ce titre Carrefour recule du coup, s'ajustant légèrement à la décote à partir de laquelle ils rachètent leurs actions. Ce titre Carrefour recule en ce moment de 0,7%. Il perdait quasiment 2,5% ce titre Carrefour. Donc on est en train de limiter les dégâts sur Carrefour à mesure qu'on approche de la clôture. Dans une séance donc qui se passe bien en Europe et aux États-Unis, Wall Street aussi progresse, plus 0,2. Sur le S&P 500, ce soir, Louis De Fels nous accompagne, Christian Bito également. Et cette question qu'on voudrait quand même vous soumettre, messieurs. Les small et mid-cap restent très en retard. On a encore une OPA aujourd'hui sur une valeur, une petite valeur, Micropole, une OPA avec une belle prime. Et on interroge nos auditeurs et téléspectateurs du coup. Est-ce que l'avenir des small et mid-cap aujourd'hui, c'est la question qu'on vous pose, vous tous, sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse notamment. Est-ce que leur avenir est en bourse ou plutôt dans le private equity? Vous êtes nombreux à répondre, à réagir, à nous laisser votre opinion, vos arguments en commentaire. Et pour vous, à 46%, c'est quand même en bourse, que se situe l'avenir des petites et moyennes entreprises plus qu'en private equity. Alors Louis, vous êtes investisseur en bourse, vous n'allez pas dire le contraire, mais quand même, on est déçu par la performance des petites et moyennes valeurs. Est-ce que vous êtes aussi certain qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans que leur avenir est en bourse? Est-ce que vous êtes aussi certain que ça, qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 ans?
Oui, clairement, c'est vrai qu'on oppose très souvent le private equity et le marché action. C'est vrai que nous, chez Gay-Lussac Gestion, on est spécialistes dans les small cap donc cotés. Donc c'est vrai que souvent, on nous oppose. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis des small cap cotés, notamment le problème avec MiFID 2, il y a eu de moins en moins d'analystes qui commençaient à suivre les valeurs et qui sont allés vers le private equity. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont aujourd'hui venues à des niveaux de valuation beaucoup, beaucoup plus faibles que dans le private equity. Quand vous regardez les indices Argos, par exemple, on est entre 9 et 10 fois les type de valorisation de private equity. Aujourd'hui, on est quasiment 6 fois aujourd'hui dans les valeurs small cap des petites capitalisations françaises. Donc il y a une énorme décote qui n'a jamais eu lieu.
Énorme. Et qui dure.
Et qui dure. C'est vrai qu'il y a peut-être le travail des IPO qui n'ont pas été très, très bien faites, donc les introductions en bourse. Que le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont introduites beaucoup trop chères. On se dit, si elles sont introduites en bourse, c'est que le private equity, on n'en a pas voulu. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça donne un peu de méfiance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de la paupérisation de la cote française. Et pour la première fois, le président Macron a fait en sorte de redynamiser tout cela. C'est vrai que le président Macron n'avait que pour les licornes, pour le private equity. Et là, pour le moment, il a peut-être prévu un plan de relance de 500 millions d'euros dedans, peut-être des changements sur le PAPME. Donc tout ça va dans le bon sens. C'est que le début. Donc espérons, donc normalement j'espère que tout ce secteur va enfin être redynamisé dans les prochaines semaines, mois.
Si les petites et moyennes valeurs ne décollent pas quand les taux des banques centrales baisseront, ce sera peut-être là le signe, on aura peut-être la réponse, ce sera peut-être le signe qu'effectivement leur avenir est beaucoup moins en bourse qu'on ne le pensait.
Si, clairement, parce qu'aujourd'hui on a une décote historique, que ce soit en price to book ou en PE relatif par rapport au large cap. Ouais. Donc, après, il faut remettre dans le contexte que les large cap avant, c'était des grosses valeurs value, c'était Orange, BNP, Total qui étaient les premières capitalisations. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui cartonnent en intelligence artificielle avec ASML, vous avez tout le luxe qui tire très bien, et vous voyez Novo Nordisk, etc., qui sont les premiers poids des indices, c'est vrai qu'ils tirent ces indices-là. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus facile de battre les indices large cap. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très difficile. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les small caps sont arrivés à des niveaux de valorisation avec, normalement, on devrait avoir atteint le point bas des bénéfices par action et on devrait réaccélérer. Donc aujourd'hui, toutes les étoiles se réalignent. Néanmoins, il faut attendre vraiment et être certain que les banquiers centraux rebaissent les taux. Donc oui, c'est vrai que celle de juin, elle est acquise, mais la question, c'est après juin, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, mais même si le marché anticipe des baisses de taux, ça ne profite pas aux small and mid. C'est-à-dire que même si le marché est conscient qu'il y aura des baisses de taux, pour l'instant, les small and mid n'en profitent pas. Est-ce que c'est pas mauvais signe sur l'impact que tout le monde espère des baisses de taux pour réveiller les small and mid? Est-ce qu'on risque pas d'être déçu?
Non, je pense qu'il faut qu'elles se fassent, ces baisses de taux. Il faut vraiment que face à son portefeuille, à sa feuille, on se dise, bon, bah, maintenant, un compte à terme ou un monde du trésor, ça me rapporte plus que 2%. Et donc, le risque que représentent les small cap, bah là, ça vaut le coup de l'acheter. Surtout à ce prix-là, cette valorisation-là. Bon, vous l'avez compris, je suis plus favorable favorable à une valeur en bourse, en fait, un comportement en bourse des small caps, c'est l'économie de marché, parce que c'est la liquidité, parce que aussi c'est le moyen de ne pas masquer la volatilité. Le défaut du private equity, c'est que, bah, comme ça n'est pas coté, ça cache une volatilité qui est potentiellement peut-être existante, mais qu'on ne voit pas. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux la règle du marché, en fait, et que ça passe en bourse. Mais je crois que ça se fait par étapes. Vous avez la micro-cap, la création de la société, le private equity et le grand succès, on passe en bourse et on s'intéresse à l'épargne beaucoup plus populaire et plus large. Oui,
effectivement.
Et surtout, ce qui est intéressant sur le marché oui. action, oui. que ce soit des large cap ou des small cap, il ne faut pas oublier que sur long terme, la bourse est le reflet de la croissance des bénéfices par action de chaque valeur. Oui. Donc c'est vrai que là, depuis deux ans, il y a une forte sous-performance, il y a une très forte décote, sachant que les bénéfices par action pour certaines valeurs ont même décru. Donc voilà, aujourd'hui tout est réaligné pour que ces cours de bourse rattrapent normalement leur croissance de bénéfices oui, par action.
D'ailleurs, qu'on dit que c'est aligné.
Si vous regardez de près le Russell 2000 par exemple, qui est du mid-cap américain, alors il y a encore un énorme retard, mais on commence à voir une inflexion. Légère inflexion.
Ah oui. Bon, vous y croyez
plus
encore.
Positive.
Vous y croyez encore l'un et l'autre. L'esprit humide et peut-être la revanche à venir, peut-être en deuxième partie d'année, alors des petites et moyennes valeurs. Le CAC 40, en attendant, est toujours en hausse, là, à quelques minutes de la clôture. On appellera dans un instant Aude Kersulec. On gagne 0,4% sur notre indice CAC 40. Et vous êtes, vous aussi, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, une majorité à penser que l'avenir des petites et moyennes sociétés reste en bourse à 44%. Vous êtes 36% à privilégier le private equity. Alors aujourd'hui, messieurs, aujourd'hui, cette année, en 2024, en fait, figurez-vous, un anniversaire. Très bon anniversaire au déficit français qui fête cette année son 50e anniversaire. Les déficits français fêtent cette année leur 50e anniversaire. Ça fait 50 ans, effectivement, que la France est en déficit. Joyeux anniversaire au déficit français. Et on le fête de très belle manière, puisqu'on a une nouvelle aggravation du déficit français sur l'année 2023. Le chiffre a été publié tout à l'heure. Hélas, on a un déficit qui bondit à 5,5% du PIB, le chiffre publié tout à l'heure. Allez, cadeau empoisonné, là. Comment est-ce qu'on voit les choses? Le marché ne réagit absolument pas. Le 10 ans français n'a pas réagi. Il est même en train de se détendre un peu, comme le 10 ans allemand et comme les taux d'Europe du Sud. Pourquoi le marché ne réagit pas? Et vous, à titre personnel, professeur de finance à l'ESSEC que vous êtes, Christian, comment est-ce que vous percevez, vous interprétez cette nouvelle aggravation du déficit français?
Elle n'est pas suffisante. Pourquoi elle n'est pas suffisante? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette manne actuelle qui est un goût pour l'achat d'obligations, un soutien des banques centrales, même si là elles sont en mode pause par rapport à l'achat de dettes? Et donc il est possible, et ça a été le cas pendant le Covid, d'utiliser le déficit. Ce qu'il faut, c'est bien l'orienter. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où finalement
l'administration... Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Vous disiez qu'il n'est pas suffisant.
Ben oui, mais il faudrait un déficit plus important, mais peut-être mieux l'utiliser.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire de grands programmes d'investissement comme aux États-Unis, qui à la surprise de tout le monde l'année dernière, a réussi une bonne croissance économique grâce à des programmes de dépenses et d'investissements, notamment dans le domaine de la relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs. Le programme est énorme, 280 milliards de dollars répartis sur plusieurs années. Biden vient de faire voter son budget pour l'année prochaine. Ça sera encore un déficit largement supérieur à 6%, à mon avis, plus d'éventuels, malheureusement, efforts de guerre potentiels. Et donc, ça leur assure une position numéro un en termes de croissance économique. Alors, regardez plus près de nous. L'Allemagne, ah oui, bravo, ça y est, ils sont repassés à un déficit contrôlé puisqu'ils sont repassés à 2% de déficit budgétaire. Le déclin industriel de l'Allemagne depuis deux ans est absolument phénoménal. Ils ont failli passer en récession. Et pour cette année, les plus optimistes prévoient 0% de croissance pour l'Allemagne. Bien joué pour le déficit. Donc, la France, avec 5,5, on est dans la bonne moyenne. On devrait être plus agressif, oui. Sauf qu'il faut bien utiliser les dépenses. Bien entendu,
c'est là que le bas blesse.
De vrais programmes industriels d'investissement, c'est peut-être là que le bas baisse. Mais regardez le modèle du Japon dont on parlait tout à l'heure.
Oui, ils ont un niveau de déficit sur PIB supérieur à la France.
6,6, oui. Une dette supérieure à la France, des taux d'intérêt plus bas que la France et un rebond économique où les 2% de croissance qu'on aura cette année au Japon sont largement supérieurs à nos, pour nous, 0,6, 0,8, entre la BCE, les prévisions européennes, pas encore génial.
Ouais, le problème, c'est le profil, effectivement, de ces déficits, plus tout que le niveau. Le niveau de 5,5 n'a en fait pas grand-chose d'exceptionnel au sein des pays de l'OCDE. On n'est pas un bon élève, mais on n'est pas non plus parmi les pires élèves. Et on a des puissances économiques davantage en dynamique que nous, qui ont des déficits aussi plus élevés que nous. Oui. Et parce qu'ils ont une croissance plus élevée, ils peuvent aussi se permettre ce déficit.
Ouais, mais oui. Surtout, il faut rappeler que ça a été creusé, notamment post-Covid. Et pendant ce temps-là, les taux réels étaient négatifs. Et je rappelle que quand on a des taux réels négatifs, c'est une chance inouïe de s'endetter et d'investir dans la transition énergétique, etc. Donc au contraire, c'était plutôt bien vu pour une fois que les taux réels étaient négatifs, parce que plus vous endettez, limite plus vous enrichissiez. Donc voilà, c'est vrai que maintenant le problème, c'est un peu le contre-coup des années Covid. Mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis qui creusent son déficit, c'est ce qui a creusé les différences d'écart de performance entre les US et en Europe l'année dernière. C'est quasiment le creusement des déficits aux États-Unis. Donc c'est ce qui explique la croissance. Donc c'est vrai que, comme dit Christian, le problème, c'est qu'en en tout cas en France, c'est mal utilisé et on ne retrouve pas forcément ce creusement dans la croissance parce que c'est pas très bien ajusté.
Oui, parce que les dépenses ici, c'est pour le fonctionnement courant, quoi. Voilà. Et peut-être un peu moins pour l'investissement que dans d'autres pays. Est-ce que les agences de notation vont dégrader la note de la France le 26 avril? Moody's et Fitch réactualiseront la note de la France. Le 31 mai, ce sera au tour de Standard & Poor's.
Je dirais que c'est pas grave. Probablement une des deux, c'est le petit jeu, ce n'est pas grave. On a toujours la solidarité européenne depuis 2012. On sait que la dette de la France ne dévira pas. D'ailleurs, le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne ne bouge pas du tout par rapport à ce pronostic.
Et il est assez faible, cet écart de taux, effectivement. Tiens, Aude nous appelle. On est à quoi? 9 minutes maintenant de la clôture des marchés ici en Europe. On va la vivre avec vous, Aude, depuis la Tour Euronext en direct. Ce sera à 17h35. Comment ça se présente ce soir, Aude?
Bon, on ne devrait pas avoir de surprise, on devrait clôturer en hausse, mais vraiment une toute petite hausse. On n'aura pas fait grand-chose aujourd'hui, mais on devrait monter de 0,3-0,4%. C'est ce qu'on a pour le moment, à 8185 points. Pas de suspense, on n'ira pas à 8200 points. Il n'y a pas de gros mouvement au sein de l'indice parisien. Je voulais quand même vous parler de Kering, qui avait vraiment vécu une mauvaise semaine dernière, hein, avec l'annonce d'une baisse de 20% ses ventes sur Gucci ce trimestre. Eh bien, Kering reprend un peu de terrain aujourd'hui. Ça faisait 5 séances qu'elle était dans le rouge. Elle avait perdu 15% quand même l'action. On reprend 3% cet après-midi. C'est même la plus forte hausse de l'indice parisien.
A tout de suite, Aude, pour la clôture en direct, effectivement. Et puis, si vous qui nous suivez, des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas à nous les envoyer chaque jour dans Culture Bourse. Julie Cohen-Hurton et son expert vous répondent. C'est à 15h50 en direct. Vous pouvez nous adresser vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur vos écrans. En plus, il est beau ce QR code, profitez-en. Ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Culture Bourse, 15h50 chaque jour sur BFM Business.